Henri Poincaré, La science et l'hypothèse, deuxième partie, l'espace, chapitre 5, l'expérience et la géométrie. Dans les lignes qui précèdent, j'ai déjà à diverses reprises cherché à montrer que les principes de la géométrie ne sont pas des faits expérimentaux, et qu'en particulier le postulatum d'Euclide ne saurait être démontré par l'expérience. Quelque péremptoires que me paraissent les raisons déjà données, je crois devoir insister parce qu'il y a là une idée fausse profondément enracinée dans bien des esprits. Qu'on réalise un cercle matériel, qu'on en mesure le rayon et la circonférence, et qu'on cherche à voir si le rapport de ces deux longueurs est égal à pi. Qu'aura-t-on fait? On aura fait une expérience, non sur les propriétés de l'espace, mais sur celle de la matière avec laquelle on a réalisé ce rond, et de celle dont est fait le mètre qui a servi aux mesures. La géométrie et l'astronomie. On a également posé la question d'une autre manière. Si la géométrie de Lobachevsky est vraie, la parallaxe d'une étoile très éloignée sera finie. Si celle de Riemann est vraie, elle sera négative. Ce sont là des résultats qui semblent accessibles à l'expérience, et on a espéré que les observations astronomiques pourrait permettre de décider entre les trois géométries. Mais ce qu'on appelle ligne droite en astronomie, c'est simplement la trajectoire du rayon lumineux. Si donc, par impossible, on venait à découvrir des parallaxes négatives, ou à démontrer que toutes les parallaxes sont supérieures à une certaine limite, on aurait le choix entre deux conclusions. Nous pourrions renoncer à la géométrie euclidienne ou bien modifier les lois de l'optique et admettre que la lumière ne se propage pas rigoureusement en ligne droite. Inutile d'ajouter que tout le monde regarderait cette solution comme plus avantageuse. La géométrie euclidienne n'a donc rien à craindre d'expériences nouvelles. Peut-on soutenir que certains phénomènes possibles dans l'espace euclidien seraient impossibles dans l'espace non euclidien, de sorte que l'expérience, en constatant ces phénomènes, contredirait directement l'hypothèse non euclidienne? Pour moi, une pareille question ne peut se poser. À mon sens, elle équivaut tout à fait à la suivante, dont l'absurdité saute aux yeux de tous. Y a-t-il des longueurs que l'on peut exprimer en mètres et en centimètres, mais que l'on ne pourrait mesurer en toises, pieds et pouces? De sorte que l'expérience, en constatant l'existence de ces longueurs, contredirait directement cette hypothèse qu'il y a des toises partagées en 6 pieds. Examinons la question de plus près. Je suppose que la ligne droite possède dans l'espace euclidien, deux propriétés quelconques que j'appellerais A et B, que dans l'espace non euclidien, elle possède encore la propriété A, mais ne possède plus la propriété B. Je suppose enfin que, tant dans l'espace euclidien que dans l'espace non euclidien, la ligne droite soit la seule ligne qui possède la propriété A. S'il en était ainsi, l'expérience pourrait être apte à décider entre l'hypothèse d'Euclide et celle de Lobachevsky. On constaterait que tel objet concret, accessible à l'expérience, par exemple un pinceau de rayons lumineux, possède la propriété A. On en conclurait qu'il est rectiligne et on chercherait ensuite s'il possède ou non la propriété B. Mais il n'en est pas ainsi. Il n'existe pas de propriété qui puisse, comme cette propriété A, être un critère absolu permettant de reconnaître la ligne droite et de la distinguer de toute autre ligne. Dira-t-on par exemple, cette propriété sera la suivante. La ligne droite est une ligne telle qu'une figure dont fait partie cette ligne ne peut se mouvoir sans que les distances mutuelles de ces points varient et de telle sorte que tous les points de cette ligne restent fixes. Voilà en effet une propriété qui, dans l'espace euclidien ou non euclidien, appartient à la droite et n'appartient qu'à elle. Mais comment reconnaîtra-t-on par expérience si elle appartient à tel ou tel objet concret? Il faudra mesurer des distances, et comment saura-t-on que telle grandeur concrète que j'ai mesurée avec mon instrument matériel représente bien la distance abstraite? On n'a fait que reculer la difficulté. En réalité, la propriété que je viens d'énoncer n'est pas une propriété de la ligne droite seule, c'est une propriété de la ligne droite et de la distance. Pour qu'elle puisse servir de critère absolu, il faudrait qu'on puisse établir non seulement qu'elle n'appartient pas aussi à une autre ligne que la ligne droite et à la distance, mais encore qu'elle n'appartient pas à une autre ligne que la ligne droite et à une autre grandeur que la distance. Or, cela n'est pas vrai. Il est donc impossible d'imaginer une expérience concrète qui puisse être interprétée dans le système euclidien et qui ne puisse pas l'être dans le système lobachevskien. De sorte que je puis conclure, aucune expérience ne sera jamais en contradiction avec le postulatum d'Euclide. En revanche, aucune expérience ne sera jamais en contradiction avec le postulatum de Lobachevski. Mais il ne suffit pas que la géométrie euclidienne ou non euclidienne ne puisse jamais être directement contredite par l'expérience. Ne pourrait-il pas se faire qu'elle ne puisse s'accorder avec l'expérience qu'en violant le principe de raison suffisante et celui de la relativité de l'espace? Je m'explique. Considérons un système matériel quelconque. Nous aurons à envisager d'une part l'état des divers corps de ce système, par exemple leur température, leur potentiel électrique, etc. Et d'autre part, leur position dans l'espace. Et parmi les données qui permettent de définir cette position, nous distinguerons encore les distances mutuelles de ces corps qui définissent leur position relative, et les conditions qui définissent la position absolue du système et son orientation absolue dans l'espace. Les lois des phénomènes qui se produiront dans ce système pourront dépendre de l'état de ces corps et de leur distance mutuelle. Mais à cause de la relativité et de la passivité de l'espace, elles ne dépendront pas de la position et de l'orientation absolue du système. En d'autres termes, l'état des corps et leur distance mutuelle à un instant quelconque dépendront seulement de l'état de ces mêmes corps et de leur distance mutuelle à l'instant initial, mais ne dépendront nullement de la position absolue initiale du système et de son orientation absolue initiale. C'est ce que je pourrais appeler, pour abréger le langage, la loi de la relativité. J'ai parlé jusqu'ici comme un géomètre euclidien, mais je l'ai dit, une expérience, quelle qu'elle soit, comporte une interprétation dans l'hypothèse euclidienne, mais elle en comporte une également dans l'hypothèse non euclidienne. Eh bien, nous avons fait une série d'expériences, nous les avons interprétées dans l'hypothèse euclidienne, et nous avons reconnu que ces expériences ainsi interprétées ne viole pas cette loi de relativité. Nous les interprétons maintenant dans l'hypothèse non euclidienne. Cela est toujours possible. Seulement, les distances non euclidiennes de nos différents corps dans cette interprétation nouvelle ne seront généralement pas les mêmes que les distances euclidiennes dans l'interprétation primitive. Nos expériences interprétées de cette manière nouvelle, seront-elles d'accord avec notre loi de relativité? Et si cet accord n'avait pas lieu, n'aurait-on pas encore le droit de dire que l'expérience a prouvé la fausseté de la géométrie non euclidienne? Il est aisé de voir que cette crainte est vaine. En effet, pour qu'on puisse appliquer la loi de la relativité en toute rigueur, il faudrait l'appliquer à l'univers entier. Car si on considérait seulement une partie de cet univers,
et si la position absolue de cette partie venait à varier,
les distances aux autres corps de l'univers varieraient également, leur influence sur la partie de l'univers envisagée
pourrait par conséquent augmenter ou diminuer, ce qui pourrait modifier les lois des phénomènes qui s'y passent.
Mais si notre système est l'univers entier, l'expérience est impuissante à nous renseigner sur sa position et sur son orientation absolue dans l'espace. Tout ce que nos instruments, si perfectionnés qu'ils soient, pourront nous faire connaître, ce sera l'état des diverses parties de l'univers et leur distance mutuelle. De sorte que notre loi de relativité pourra s'énoncer ainsi. Les lectures que nous pouvons faire sur nos instruments, à un instant quelconque, dépendront seulement des lectures que nous aurions pu faire sur ces mêmes instruments à l'instant initial. Or, un pareil énoncé est indépendant de toute interprétation des expériences. Si la loi est vraie dans l'interprétation euclidienne, elle sera vraie également dans l'interprétation non euclidienne.
Qu'on me permette à ce sujet une petite digression.
J'ai parlé plus haut des données qui définissent la position des divers corps de système. J'aurais dû parler également de celles qui définissent leur vitesse. J'aurais eu alors à distinguer la vitesse avec laquelle varient les distances mutuelles des divers corps et d'autre part les vitesses de translation et de rotation du système, c'est-à-dire les vitesses avec lesquelles varient sa position et son orientation absolue.
Pour que l'esprit fût pleinement satisfait,
il aurait fallu que la loi de relativité puisse s'énoncer ainsi. L'état des corps et leur distance mutuelle à un instant quelconque, ainsi que les vitesses avec lesquelles varient ces distances à ce même instant, dépendront seulement de l'état de ces corps et de leur distance mutuelle à l'instant initial, ainsi que des vitesses avec lesquelles varient ces distances à cet instant initial, mais elles ne dépendront ni de la position absolue initiale du système, ni de son orientation absolue, ni des vitesses avec lesquelles variaient cette position et cette orientation absolue à l'instant initial. Malheureusement, la loi ainsi énoncée n'est pas d'accord avec les expériences, au moins telles qu'on les interprète d'ordinaire. Qu'un homme soit déplacé sur une planète dont le ciel serait constamment couvert d'un épais rideau de nuages, de telle façon qu'on ne puisse jamais apercevoir les autres astres. Sur cette planète, on vivra comme si elle était isolée dans l'espace. Cet homme pourra cependant s'apercevoir qu'elle tourne, soit en mesurant l'aplatissement, ce qu'on fait d'ordinaire en s'aidant d'observations astronomiques, mais ce qu'on pourrait faire par des moyens purement géodésiques, soit en répétant l'expérience du pendule de Foucault. La rotation absolue de cette planète pourrait donc être mise en évidence. Il y a là un fait qui choque le philosophe, mais que le physicien est bien forcé d'accepter. On sait que, de ce fait, Newton a conclu l'existence de l'espace absolu. Je ne puis en aucune façon adopter cette manière de voir. J'expliquerai pourquoi dans la troisième partie. Pour le moment, je n'ai pas voulu aborder cette difficulté. J'ai donc dû me résigner, dans l'énoncé de la loi de relativité, à confondre les vitesses de toutes sortes parmi les données qui définissent l'état des corps. Quoi qu'il en soit, cette difficulté est la même pour la géométrie d'Euclide et pour celle de Lobachevsky. Je n'ai donc pas à m'inquiéter. Et je n'en ai parlé qu'incidemment. Ce qui importe, c'est la conclusion. L'expérience
ne peut décider entre Euclide et Lobachevski.
En résumé, de quelque façon qu'on se retourne, il est impossible de découvrir à l'empirisme géométrique un sens raisonnable. Les expériences ne nous font connaître que les rapports des corps entre eux. Aucune d'elles ne porte ni ne peut porter
sur les rapports des corps avec l'espace,
ou sur les rapports mutuels des différentes parties de l'espace. Oui, répondez-vous à cela, une expérience unique est insuffisante, parce qu'elle ne me donne qu'une seule équation avec plusieurs inconnues. Mais quand j'aurai fait assez d'expériences, j'aurai assez d'équations pour calculer toutes mes inconnues. Connaître la hauteur du grand mât.
Cela ne suffit pas pour calculer l'âge du capitaine.
Quand vous aurez mesuré tous les morceaux de bois du navire, vous aurez beaucoup d'équations, mais vous ne connaîtrez pas mieux cet âge. Toutes vos mesures ayant porté sur vos morceaux de bois ne peuvent rien vous révéler que ce qui concerne ces morceaux de bois. De même, vos expériences, quelque nombreuses qu'elles soient, n'ayant porté que sur les rapports des corps entre eux, ne vous révéleront rien sur les rapports mutuels des diverses parties de l'espace. Direz-vous que si les expériences portent sur les corps, elles portent du moins sur les propriétés géométriques des corps. Et d'abord, qu'entendez-vous par propriétés géométriques des corps? Je suppose qu'il s'agit des rapports des corps avec l'espace. Ces propriétés sont donc inaccessibles à des expériences qui ne portent que sur les rapports des corps entre eux. Cela seul suffirait pour montrer que ce n'est pas d'elles qu'il peut être question. Commençons toutefois par nous entendre sur le sens des mots, propriétés géométriques des corps. Quand je dis qu'un corps se compose de plusieurs parties, je suppose que je n'énonce pas là une propriété géométrique. Et cela resterait vrai, même si je convenais de donner le nom impropre de point aux parties les plus petites que j'envisage. Quand je dis que telle partie de tel corps est en contact avec telle partie de tel autre corps, j'énonce une proposition qui concerne les rapports mutuels de ces deux corps et non pas leur rapport avec l'espace. Je suppose que vous m'accorderez que ce ne sont pas là des propriétés géométriques. Je suis sûr au moins que vous m'accorderez que ces propriétés sont indépendantes de toute connaissance de la géométrie métrique. Cela posé, j'imagine que l'on ait un corps solide formé de 8 tiges minces de fer. OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, réunis par une de leurs extrémités, O. Nous aurons d'autre part un second corps solide, par exemple un morceau de bois sur lequel on marquera trois petites taches d'encre que j'appellerai alpha, bêta, gamma. Je suppose ensuite que l'on constate que l'on peut amener en contact alpha, bêta, gamma avec A, G, O. Je veux dire par là alpha avec grand A, en même temps que bêta avec grand G et gamma avec grand O. Puis qu'on peut amener successivement en contact alpha, bêta, gamma avec B, G, O, C, G, O, D, G, O, E, G, O, F, G, O. Puis avec A, H, O, B, H, O, C, H, O, D, H, O, E, H, O, F, H, O. Puis alpha gamma successivement avec AB, BC, CD, DE, EF, FA. Voilà des constatations que l'on peut faire sans avoir d'avance aucune notion sur la forme ou sur les propriétés métriques de l'espace. Elles ne portent nullement sur les propriétés géométriques des corps. Et ces constatations ne sont pas possibles si les corps sur lesquels on a expérimenté se meuvent suivant un groupe ayant même structure que le groupe lobachevskien. Je veux dire, d'après les mêmes lois que les corps solides dans la géométrie de Lobachevsky. Elles suffisent donc pour prouver que ces corps se meuvent suivant le groupe euclidien, ou tout au moins qu'ils ne se meuvent pas suivant le groupe lobachevskien. Qu'elles soient compatibles avec le groupe euclidien, c'est ce qu'il est aisé de voir. Car on pourrait les faire si le corps alpha beta gamma était un solide invariable de notre géométrie ordinaire, présentant la forme d'un triangle rectangle. Et si les points A, B, C, D, E, F, G, H étaient les sommets d'un polyèdre formé de deux pyramides hexagonales régulières de notre géométrie euclidienne ayant pour base commune A, B, C, D, E, F, et pour sommet l'une G et l'autre H.
Supposons maintenant
qu'au lieu des constatations précédentes, on observe qu'on peut, comme tout à l'heure, appliquer alpha, beta, gamma successivement sur AGO, BGO, CGO, DGO, EGO, FGO, AHO, BHO, CHO, DHO, EHO, FHO, puis qu'on peut appliquer alpha, beta et non plus alpha, gamma successivement sur AB, BC, CD, DE, EF et FA. Ce sont les constatations que l'on pourrait faire si la géométrie non euclidienne était vraie, si les corps alpha, beta, gamma, O, A, B, C, D, E, F, G, H étaient des solides invariables, si le premier était un triangle rectangle et le second une double pyramide hexagonale régulière de dimensions convenables. Ces constatations nouvelles ne sont donc pas possibles si les corps se meuvent suivant le groupe euclidien. Mais elles le deviennent si l'on suppose que les corps se meuvent suivant le groupe lobachevskien. Elles suffiraient donc, si on les faisait, pour prouver que les corps en question ne se meuvent pas suivant le groupe euclidien. Ainsi,
sans faire aucune hypothèse sur la forme,
sur la nature de l'espace, sur les rapports des corps avec l'espace, sans attribuer au corps aucune propriété géométrique, j'ai fait des constatations qui m'ont permis de montrer, dans un cas que les corps expérimentés se meuvent suivant un groupe dont la structure est euclidienne, et dans l'autre cas qu'ils se meuvent suivant un groupe dont la structure est lobachevskienne. Et qu'on ne dise pas que le premier ensemble de constatations constituerait une expérience prouvant que l'espace est euclidien et le second une expérience prouvant que l'espace est non euclidien. Et en effet, on pourrait imaginer, je dis imaginer, des corps se mouvant de manière à rendre possible la seconde série de constatations. Et la preuve, c'est que le premier mécanicien venu pourrait en construire, s'il voulait en donner la peine et y mettre le prix. Vous n'en conclurez pas pourtant que l'espace est non euclidien. Et même, comme les corps solides ordinaires continueraient à exister quand le mécanicien aurait construit les corps étranges dont je viens de parler, il faudrait conclure que l'espace est à la fois euclidien et non euclidien. Supposons par exemple que nous ayons une grande sphère de rayon grand R et que la température décroisse du centre à la surface de cette sphère suivant la loi dont j'ai parlé en décrivant le monde non euclidien. Nous pourrions avoir des corps dont la dilatation sera négligeable
et qui se comporteront
comme des solides invariables ordinaires, et d'autre part des corps très dilatables qui se comporteraient comme des solides non euclidiens. Nous pourrions avoir deux doubles pyramides O, A, B, C, D, E, F, G, H et O', A', B', etc. H', et deux triangles alpha, beta, gamma et alpha, prime, beta, prime, gamma, prime. La première double pyramide serait rectiligne et la seconde curviligne. Le triangle alpha, beta, gamma serait fait d'une manière indilatable et l'autre d'une manière très dilatable. On pourrait alors faire les premières constatations avec la double pyramide OAH et le triangle alpha, beta, gamma, et les secondes avec la double pyramide O', H', A', et le triangle alpha prime, bêta prime, gamma prime. Et alors, l'expérience semblerait prouver D'abord que la géométrie euclidienne est vraie, et ensuite qu'elle est fausse. Les expériences ont donc porté non sur l'espace, mais sur les corps. Supplément. Pour être complet, je devrais parler d'une question très délicate et qui demanderait de longs développements. Je me bornerai à résumer ici ce que j'ai exposé dans la revue de métaphysique de morale et dans De Moniste. Quand nous disons que l'espace a trois dimensions, que voulons-nous dire? Nous avons vu l'importance de ces changements internes qui nous sont révélés par nos sensations musculaires. Ils peuvent servir à caractériser les diverses attitudes de notre corps.
Prenons arbitrairement comme origine l'une de ces attitudes A.
Quand nous passons de cette attitude initiale à une autre attitude quelconque B, nous éprouvons une série S de sensations musculaires et cette série S définira B. Observons toutefois que nous regarderons souvent deux séries S et S' comme définissant la même attitude B, puisque les attitudes initiales et finales A et B restant les mêmes, les attitudes intermédiaires et les sensations correspondantes peuvent différer. Comment donc reconnaîtrons-nous l'équivalence de ces deux séries? Parce qu'elles peuvent servir à compenser un même changement externe, ou, plus généralement, parce que, quand il s'agit de compenser un changement externe, une de ces séries peut être remplacée par l'autre. Parmi ces séries, nous avons distingué celles qui peuvent à elles seules compenser un changement externe et que nous avons appelées déplacements. Comme nous ne pouvons discerner deux déplacements qui sont trop voisins, l'ensemble de ces déplacements présente les caractères d'un continu physique. L'expérience nous enseigne que ce sont ceux d'un continu physique à six dimensions. Mais nous ne savons pas encore combien l'espace lui-même a de dimensions. Il nous faut résoudre une autre question. Qu'est-ce qu'un point de l'espace? Tout le monde croit le savoir, mais c'est une illusion. Ce que nous voyons quand nous cherchons à nous représenter un point de l'espace, c'est une tache noire sur du papier blanc, une tache de craie sur un tableau noir. C'est toujours un objet. La question doit donc être entendue comme il suit. Que veux-je dire quand je dis que l'objet B est au même point qu'occupait tout à l'heure l'objet A? Ou encore, quel critère me permettra de le reconnaître? Je veux dire que, bien que je n'ai pas bougé, ce que m'enseigne mon sens musculaire, mon premier doigt qui tout à l'heure touchait l'objet A touche maintenant l'objet B. J'aurais pu me servir d'autres critères, par exemple d'un autre doigt, ou du sens de la vue. Mais le premier critère est suffisant. Je sais que s'il répond oui, tous les autres critères donneront la même réponse. Je le sais par expérience. Je ne puis le savoir a priori. C'est aussi pour cela que je dis que le toucher ne peut s'exercer à distance. C'est une autre manière d'énoncer le même fait expérimental. Et si je dis au contraire que la vue s'exerce à distance, cela veut dire que le critère fourni par la vue peut répondre oui, tandis que les autres répondent non. Et en effet, l'objet, bien que s'étant éloigné, peut former son image au même point de la rétine. La vue répond oui, l'objet est resté au même point, et le toucher répond non, car mon doigt, qui tout à l'heure touchait l'objet, ne le touche plus maintenant. Si l'expérience nous avait montré qu'un doigt peut répondre non quand l'autre dit oui, nous dirions de même que le toucher s'exerce à distance. En résumé, pour chaque attitude de mon corps, mon premier doigt détermine un point, et c'est cela, et cela seulement, qui définit un point de l'espace. À chaque attitude correspond de la sorte un point. Mais il arrive souvent que le même point correspond à plusieurs attitudes différentes. C'est dans ce cas que nous disons que notre doigt n'a pas bougé, mais que le reste du corps a bougé. Nous distinguons donc, parmi les changements d'attitude, ce où le doigt ne bouge pas. Comment y sommes-nous conduits? C'est parce que souvent nous remarquons que dans ces changements, l'objet qui est en contact du doigt ne quitte pas ce contact. Rangeons donc dans une même classe toutes les attitudes qui se déduisent les unes des autres par un des changements que nous avons ainsi distingués. À toutes les attitudes d'une même classe correspondra le même point de l'espace. Donc à chaque classe correspondra un point, et à chaque point une classe. Mais on peut dire que ce que l'expérience atteint, ce n'est pas le point. C'est cette classe de changement, ou mieux, la classe de sensations musculaires correspondantes. Et alors, quand nous disons que l'espace a trois dimensions, nous voulons dire simplement que l'ensemble de ces classes nous apparaît avec les caractéristiques d'un continu physique à trois dimensions. On pourrait être tenté de conclure que c'est l'expérience qui nous a appris combien l'espace a de dimensions. Mais en réalité, ici encore, nos expériences ont porté non sur l'espace, mais sur notre corps et ses rapports avec les objets voisins. De plus, elles sont excessivement grossières. Dans notre esprit, préexistait l'idée latente d'un certain nombre de groupes. Ce sont ceux dont Lee a fait la théorie. Lequel choisirons-nous pour en faire une sorte d'étalon auquel nous comparerons les phénomènes naturels? Et ce groupe choisi, quel est celui de ces sous-groupes que nous prendrons pour caractériser un point de l'espace? L'expérience nous a guidés en nous montrant quel choix s'adapte le mieux aux propriétés de notre corps. Mais son rôle s'est borné là. L'expérience ancestrale. On a dit souvent que si l'expérience individuelle n'a pu créer la géométrie, il n'en est pas de même de l'expérience ancestrale. Mais qu'entend-on par là?
Veut-on dire que nous ne pouvons démontrer expérimentalement
le postulatum d'Euclide, mais que nos ancêtres ont pu le faire? Pas le moins du monde. On veut dire que par sélection naturelle, notre esprit s'est adapté aux conditions du monde extérieur, qu'il a adopté la géométrie la plus avantageuse à l'espèce, ou en d'autres termes, la plus commode. Cela est tout à fait conforme à nos conclusions. La géométrie n'est pas vraie, elle est avantageuse.